divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois.
Bonjour à tous, Daniel Morfois en votre compagnie pour le Grand Orient de France. Je reçois aujourd'hui Francis Roch, membre du Grand Orient de France à Perpignan et maçon engagé dans la cité, dans de nombreuses actions, pour aborder un sujet difficile que nous avions déjà évoqué lors d'une précédente émission, mais il y a quelques années, celui du polyhandicap. Ce thème pourra surprendre, mais véritablement l'interrogation sur les plus faibles, sur notre vulnérabilité à tous et sur la réalité de notre liberté et les limites qu'elle rencontre est évidemment au cœur d'une démarche maçonnique, d'une démarche initiatique et qui est aussi toujours une quête de fraternité humaine. Le Conseil de l'Ordre a programmé cette émission à l'occasion d'une réunion publique qui se tiendra bientôt en présence de Madame la Ministre et du Grand Maître. Francis Roch, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce prétexte à l'émission qui n'est pas rien tout de même ?
Certainement. Je peux, puisque j'y suis intimement mêlé avec toutes les sœurs et les frères de ma région, notamment, et nous travaillons sur le sujet déjà depuis pas mal de temps. D'abord, merci de me recevoir. Si je peux m'exprimer à ce micro, c'est grâce à la décision du Conseil de l'Ordre, que je remercie aussi. Je suis effectivement engagé sous la bannière du Grand Orient de France depuis très nombreuses années. Et si ça ne me donne pas une qualité exceptionnelle, particulière, je veux dire, ça, en tout cas, ça construit ma vie, ma réflexion, mes engagements dans le sens du partage, de l'égalité, de la tolérance, toutes options qui sont extrêmement représentées au sein du Grand Orient de France et d'autres obédiences maçonniques également.
Oui, nous n'avons pas l'apanage, et ni aucun maçon n'a totalement l'apanage de ces valeurs, fort heureusement.
Certainement, on peut aussi être avoir une certaine fierté d'appartenir à l'une obédience plutôt qu'à une autre, sans dénigrer l'autre, les autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, en ce qui concerne la réunion publique du 16 avril, elle s'intègre dans une démarche plus générale du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, qui a cette année utilisé le fil rouge de l'humanisme qui se trouve peut-être en difficulté dans certaines options de notre société, en tout cas certains fonctionnements. C'est ainsi que ont été réalisées, je crois déjà, des réunions publiques sur le problème des migrants, qui est un problème où l'humanisme est fortement engagé et qui est, à nos yeux, est très très important. L'obédience s'est aussi déplacée, toujours en faisant intervenir les frères des régions où ils s'installent, pour parler des prisons. Et il nous a fait quand même l'honneur de retenir Perpignan pour se consacrer et nous interroger sur le polyhandicap. Pourquoi Perpignan ? C'est parce que Perpignan a une certaine antériorité dans la défense de cette cause du polyhandicap et la loge à laquelle j'appartiens, qui s'appelle Germanor, je tiens à le préciser, tout particulièrement.
Alors, vous évoquez le travail justement qui a été fait à Perpignan, mais dans la région, dans le département, dans la région, même si la respectable loge Germanor est la clé de voûte de cet édifice, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, nous dire les grandes lignes qui ressortent, ce qui doit être mis en exergue un petit peu de ce travail donc collectif des francs-maçons?
Oui, je peux, je dois d'abord dire, bien sûr, que lorsque j'ai parlé de Germanor, c'était par aussi respect de la filiation que j'ai avec cette loge, mais toutes les autres loges, et elles sont nombreuses, ont participé au travail de réflexion qui est maintenant très conséquent et dont nous devons tirer une synthèse dans les jours qui viennent afin de la présenter devant Madame la secrétaire d'État au handicap et sous l'œil bienveillant, l'espérons-nous, de notre grand maître.
Vous pouvez y compter, j'en doute pas.
Et voilà, donc de quoi s'agit-il en gros? Bien, c'est dans le cadre de ce qu'a retenu le Grand Orient au travers du fil rouge sur l'humanisme, c'est de mettre en exergue cette notion d'humanisme qui est intimement liée à la problématique du polyhandicap. Il est impensable de parler de polyhandicap si on ne le fait pas avec tous les arguments de l'humanisme. Et donc, à ce titre-là, le colloque, la réunion s'intègre bien dans la série.
Pardon. Le thème est donc bien choisi. Il y aura donc une synthèse de présenter. Peut-être faut-il, et je pense même qu'il est tout à fait nécessaire, de définir ce qu'est précisément le polyhandicap, parce qu'il ne faut pas comprendre divers handicaps, oui, associés ou simplement un handicap particulièrement lourd. Il y a une spécificité du polyhandicap.
Vous citez le mot qui convient. Bien sûr, on ne peut pas continuer à parler de polyhandicap sans le définir, d'autant que le terme est étranger à la plupart de nos auditeurs et nos concitoyens. Pour savoir ce qu'est le polyhandicap, déjà, il faut être directement concerné, d'abord. Et c'est à ce titre que je le suis un petit peu quand même, puisque je suis père d'une enfant polyhandicapée, victime, elle, d'un accident génétique. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est un accident, fut-il génétique, c'est un accident qui a bouleversé l'histoire commençante de cet enfant et qui a fortement bouleversé celle de ses parents.
Le polyhandicap se caractérise par à la fois l'association, voilà, d'un handicap intellectuel, cognitif, oui, et physique, l'un et l'autre majeur.
Voilà, et tout à fait exactement. Et il faut même préciser encore plus nettement que ce handicap physique et ce handicap mental, dans leur expression la plus sévère, doivent être conjugués ensemble. Il faut les avoir ensemble pour être, selon la définition, une personne polyhandicapée. Cette nuance n'est pas légère, elle est très très importante parce qu'elle distingue ceux qui n'en sont pas issus et qui sont ceux qui portent plusieurs handicaps comme un handicap sensoriel, un handicap moteur qui s'associent mais qui ne font pas une personne polyhandicapée. Cette nuance est importante. Pourquoi ? Parce que cette caractéristique essentielle de la conjugaison du handicap moteur et du handicap mental dans leur expression la plus sévère, nous ne l'oublions jamais, elle a pour conséquence fondamentale à nos yeux, elle a pour conséquence d'interdire à la personne polyhandicapée une communication avec le grand nombre. Elle est totalement en perte d'autonomie, elle ne parle pas, ne marche pas, n'attrape pas, ne se tient pas assise, et Et surtout, elle ne peut pas exprimer sa capacité à être un individu, un homme libre, dans la mesure où l'expression de la liberté passe par une position, un acte, un engagement qui se traduit d'abord par la parole, ensuite éventuellement et peut-être même autrement que la parole par le geste, mais la personne polyhandicapée ne peut pas non plus avoir cette démarche, ni parler, ni avoir un geste, ni manifester qu'elle veut telle ou telle chose, parce qu'elle restera impassible devant la question qui lui sera posée. Bien entendu, je le sais par expérience personnelle, et je sais pour l'avoir tellement entendu de fois, que les personnes polyhandicapées ont une communication. Je ne suis pas indifférent à celle-ci. Je la pratique avec mon enfant. Mais cette communication, si elle traduit un sentiment un peu primaire de peur, de plaisir, va se traduire par des pleurs ou par une amorce de rire, un visage qui va s'éclairer, mais ça s'arrêtera là. Ça ne fait pas une communication.
Ça suppose une très grande connivence et une très grande proximité de l'entourage.
Sans aucun doute.
Pour décrypter le message, en quelque sorte.
Sans aucun doute. Et le mot décrypter est très bon. Mais à force de vivre, bien sûr qu'on a cet échange. Mais cet échange, j'insiste un peu lourdement, mais j'y tiens parce que on nous oppose, et même des personnes très haut niveau de réflexion, on nous oppose que c'est pas vrai, il n'y a pas cette absence de communication, il y a une communication. Eh bien, moi je m'inscris pas en faux, parce qu'elle existe, mais elle est tellement insuffisante qu'elle ne peut pas être le vecteur d'une volonté, et donc d'une volonté. Je crois que c'est le plus...
Le problème qui va être posé lors de ce colloque et la position que vous voudriez faire avancer est celui d'accorder un statut particulier, une reconnaissance à la situation de polyhandicapé. Je vais peut-être vous surprendre, mais est-ce que c'est pas une demande paradoxale au regard de la pratique d'inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale, telle que notamment la loi de 2005 a essayé de la développer, de la mettre en place. En clair, est-ce que vous n'allez pas à rebours de ce mouvement qui est perçu comme extrêmement positif, même si des textes à la réalité, il suffit voir les conditions d'accès aux établissements recevant du public pour voir qu'il y a encore du travail. Mais est-ce que vous ne situez pas à contre-courant de ce...
Eh bien, j'aurais la prétention de vous répondre non. On ne se situe pas à contre-courant. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans le courant. Voilà la réponse fondamentale, c'est celle-ci. Nous nous situerions à contre-courant si nous relevions des mêmes caractéristiques que les autres personnes handicapées. Je précise tout de suite, j'aurais déjà dû le dire, que nous ne sommes pas là pour dire que les polyhandicapés, c'est eux, le handicap, et que les autres, ils existent, mais... Non, absolument pas, nous ne faisons pas une classification. Toutes les personnes handicapées, à quelque degré que ce soit, portent leurs difficultés et une vie difficile. Sans aucun doute. Néanmoins, la personne polyhandicapée, parce qu'elle a les caractéristiques physiques et mentales que j'ai dites, et la conséquence qui est l'impossibilité à manifester une volonté, donc à être un homme libre, un individu libre, cette personne polyhandicapée se situe en dehors du cadre du handicap. C'est toute notre démonstration à laquelle nous souhaiterions que les responsables nationaux ou autres prêtent une certaine attention. Nous savons que des gens de niveau intellectuel élevé sont d'accord avec nous, et ils l'ont prouvé en l'écrivant. Nous avons de très très nombreux de gens de qualité, comme on dit. Néanmoins, pouvoir exécutif, celui qui a précédé l'actuel, n'a pas porté l'attention que nous souhaitons à la notion de statut qui caractérisera les spécificités du polyhandicapé.
En quoi, puisqu'il s'agit de se mettre un petit peu à l'écart de cette démarche d'inclusion, en quoi s'agit-il d'un enjeu de citoyenneté derrière cette revendication ?
Oui, ben il s'agit effectivement d'un enjeu de citoyenneté, parce que qui dit citoyen dit membre d'une même collectivité. En droit général, les personnes polyhandicapées sont membres d'une même collectivité, la nôtre, celle à laquelle vous appartenez et à laquelle j'appartiens. Néanmoins, si à l'intérieur de cette collectivité nous pouvons exercer les droits qui nous sont reconnus et les devoirs que nous devons en conséquence, la personne polyhandicapée, elle, par sa condition, ne peut rien. Elle doit avoir. C'est pour ça que nous demandons un statut. Elle doit avoir un statut qui reconnaisse ses impossibilités, mais qui la reconnaisse dans un cadre qui soit un peu particulier, mais qui soit à l'intérieur du cadre général. Ça ne serait pas la seule catégorie qui aurait des statuts. Et le corps social est fondé sur l'interaction entre les différents statuts. C'est comme ça qu'il y a un corps social qui existe et qui est cohérent.
C'est donc un enjeu de compensation qu'il y a aussi derrière cette demande de statut, de prise en charge ?
Non, pas du tout.
Pas du tout ?
Enfin, pas du tout, j'exagère. D'autant que la compensation est un des piliers de la loi de 2005.
Oui, tout à fait.
Et à ce titre-là, je rappelle que les polyhandicapés, s'ils sont l'extrême du handicap, sont aussi des handicapés, donc la compensation les touche. Néanmoins, ce que nous attendons d'un statut, c'est qu'il les intègre non pas au niveau de ce qu'on va devoir leur donner, mais au niveau des droits qui sont ceux de tous, qu'il les intègre dans la société.
Francis Roch, merci. Cette émission est décidément trop courte. Il y aurait encore eu beaucoup de choses à dire. Je remercie nos auditeurs, j'espère les retrouver le premier dimanche du mois prochain, en avril. Claire Levasseur était à la technique, Dany Journeau à la réalisation. Bon dimanche, à bientôt.